Conséquences des neurosciences pour une nouvelle approche de la kinésithérapie dans les paralysies faciales. Article de Francis Clouteau, MKDE, secrétaire du CEROF. Article publié dans le Kiné Actualité du jeudi 6 octobre 2011. Nous souhaitons aborder ici succinctement l'apport des neurosciences dans la compréhension et le traitement des paralysies faciales, sujet qui a été évoqué pour la première fois lors de la journée du CEROF en mai 2011. CEROF signifiant Cercle d'études et de recherche en rééducation orofaciale. La paralysie faciale est l'affection de la face la plus fréquemment rencontrée par la kinésithérapeute. Le recours à ces recherches nous invite à renouveler notre regard de praticien sur cette pathologie. Cet article ne vise donc pas à l'étude exhaustive des paralysies faciales, ni des techniques et des traitements de ces paralysies. La paralysie faciale est une atteinte de la capacité motrice des muscles du némiface. Elle engendre des difficultés pour effectuer des mimiques émotionnelles ou volontaires. Son origine est dite centrale ou périphérique. La paralysie faciale se caractérise par une atteinte de la motricité des muscles superficiels de la face, innervés par le nerf facial. Selon le niveau topographique et l'intensité de l'atteinte des territoires des muscles innervés par le 7 et le 7 bis, peuvent être inégalement concernés. L'atteinte est fonction de la cause initiale et de sa localisation. Parfois, une pathologie située sur un autre nerf crânien étendra ses conséquences au 7, exemple neurinome 8. Le constat du kinésithérapeute. La paralysie faciale est généralement identifiable par le kinésithérapeute dès le premier contact. Les symptômes physiques sont explicites, joues en gants de toilette, fente palpébrale importante, etc. Le patient perçoit un regard interrogateur de l'autre. Il sent simultanément la sensation prégnante de porter un masque de la mauvaise humeur. Il ressent une perte de repères sensoriels, une détérioration de son image. Sa gestuelle faciale est corrompue, induisant des troubles de la vue, des difficultés à s'exprimer oralement ou à s'alimenter. Certains praticiens peuvent rencontrer des difficultés à établir le contact et éprouver une gêne à observer les expressions du patient. Le bilan. Le kinésithérapeute élabore avec soin le bilan. En effet, il est déterminant dans l'abord de la pathologie car il permet d'évaluer l'étendue et le degré de l'atteinte. Son analyse permettra d'établir les possibilités d'évolution et d'adapter le traitement. Entre parenthèses, atelier du CEROF. Pour être efficient, il sera simple, rapide à effectuer. Il doit surtout décrire rigoureusement l'atteinte. Il sera réévalué très fréquemment. Le kinésithérapeute analyse la capacité du patient à produire les mimiques propres au fonctionnement facial. Le bilan rend compte de ses observations par des mesures et des descriptions utiles. C'est globalement que l'on testera les muscles de la gestuelle et non de façon analytique. La réévaluation du bilan s'appuie sur la photographie et la vidéo pour rendre compte de la progression, de la récupération des qualités gestuelles et de l'expression émotionnelle. Qu'appelle-t-on neurosciences ? Les neurosciences désignent l'étude scientifique du système nerveux. Elles abordent son fonctionnement par rapport au corps et à son environnement, les axes de recherche et leurs objets comme les apports fonctionnels des comportements physiologiques humains trouvent un écho dans l'approche rééducative. La conception mécanique du cerveau basée sur le principe d'une organisation linéaire de causalité est largement perçue comme obsolète. Les observations actuelles s'orientent vers un système nerveux fonctionnant en réseau, le concept de centre directeur qui apparaît comme un raccourci simplificateur et opportun, nous permettant une compréhension simple et rassurante, est également remise en cause. On s'intéresse alors à la spécialisation des neurones en fonction de leur place dans le système. À la linéarité semble s'imposer le concept de synchronicité et de corrélativité des processus. L'impression d'unité des sensations et des émotions serait due à la simultanéité des processus. Qu'est-ce que le visage ? Le visage caractérise une personne, d'où son usage pour l'identification. Il exprime des émotions et participe aussi aux rapports sociaux. La perception des visages désigne le processus cognitif par lequel le cerveau analyse des informations visuelles pour identifier une personne et détecter son état émotionnel. Nous posséderions un potentiel dédié à la reconnaissance des visages. Des travaux tendent à associer ces capacités de reconnaissance à celles mises en œuvre dans l'apprentissage de la lecture. Ils mettent en lumière l'adaptabilité du système nerveux central, appelé plasticité cérébrale. Identité, regard, émotion, beauté, attention et intention sont déchiffrés sans relâche par notre machinerie cérébrale impossible de ne voir dans le visage qui nous fait face qu'un objet de chair sans signification. À quel stimuli répond-il ? Le visage répond habituellement aux stimulations émotionnelles. Mais il peut également être sous contrôle volontaire. Les mouvements faciaux et postures faciales sont liés à l'émotion. L'expression faciale est une gestuelle, un mode d'expression. Le geste peut se définir comme un mouvement ou une série de mouvements déterminés par une certaine intentionnalité. Notre visage reçoit et émet en permanence des signaux, affichage indispensable de l'échange social. Une partie des informations perçues par nos sens ne passe pas par une attitude cognitive. C'est pourquoi le patient atteint de paralysie faciale devra, pour optimiser sa rééducation, interpréter des informations reçues par ses sens et mettre en œuvre des processus cognitifs. La nature même des mimiques faciales. Sont-elles innées ou acquises ? Les études récentes montrent qu'elles sont essentiellement acquises par l'apprentissage procédural. Localisées dans différentes régions cérébrales, des neurones s'activent lorsque l'on voit faire un geste ou lorsque l'on fait ce geste. Ce sont des neurones miroirs. Ils nous permettent d'apprendre par imitation de notre entourage à partir de potentialités sans doute innées. Ils nous permettent de stimuler ce qui se passe dans le cerveau d'autrui. Ils sont indispensables à différentes formes d'apprentissage. Ils seraient à l'origine d'une empathie primaire immédiate. Ils sont les outils de l'apprentissage de la zone faciale. Nous apprenons inconsciemment par imitation face à nos parents. Des travaux sur l'empathie montrent que nous percevons la joie ou la colère de nos interlocuteurs sans même y penser. Contourner le caractère inconscient de cette forme d'acquisition et les automatismes imposent d'utiliser le système visuel et l'analyse consciente pour la rééducation faciale. À l'origine de l'imitation, un phénomène que l'on appelle résonance motrice implique la conscience de soi et une représentation de l'intention. Idées reçues sur les paralysies faciales. Abordons quelques idées rencontrées en pratique quotidienne sur les paralysies faciales. En cas d'une atteinte de type paralysie faciale, il est courant d'entendre ou de lire « Petit A, surtout ne rien faire, la récupération est une affaire de 2 à 3 semaines maximum, sous-entendu sans séquelles. » Petit B, il faut faire des grimaces, des exercices dynamiques, des mouvements faciaux forcés et volontaires plusieurs fois par jour. Petit C, la physiothérapie peut provoquer des hypertonies. Petit D, la rééducation pourrait déclencher hypertonie et syncinésie. À l'aune des nouvelles approches sur cette pathologie, nous pouvons discuter la pertinence de ces affirmations. Petit A, il est vrai que de nombreux cas de paralysie faciale récupèrent dans les jours suivant l'affection. Seuls les soins d'urgence ont été effectués, œil, traitements médicaux, prophylaxie. Petit B, l'intérêt du travail actif et dynamique est plus que contestable. Il a été montré par exemple que le sourire volontaire est régi par le cortex moteur. Il est appelé sourire pyramidal. Le cortex moteur, par l'intermédiaire des voies pyramidales, projette sur le tronc cérébral et la moelle épinière. tandis que le sourire émotionnel, spontané, dit sourire de Duchenne, qui est sous le contrôle d'aire motrice du gyrus singulaire antérieur, elles rejoignent les noyaux du tronc cérébral par les voies extrapyramidales via la formation réticulée du tronc cérébral. Le sourire émotionnel et le sourire volontaire ont des origines différentes. Le but de la rééducation est de retrouver une expressivité émotionnelle spontanée efficiente. Les mimiques volontaires actives ne sont pas appropriées à la rééducation. Le système émotionnel, même perturbé, continue d'ailleurs son activité. Tout au long de la journée, les différents états émotionnels stimulent cette musculature lorsque l'état du nerf facial le permet. L'affirmation que nous discutons entraîne une question. Pourquoi chercher à recruter un maximum de fibres en l'absence de l'intégrité neurologique en demandant un travail volontaire actif ? Un élément de réponse nous est apporté par les travaux consacrés à l'effort et à la paralysie. La sensation d'effort ne reflète pas directement l'intensité de la commande motrice. La prise de conscience de l'effort de volonté est associée à une augmentation de l'activité motrice supplémentaire dans le cortex pariétal inférieur de l'hémisphère opposé aux membres mobilisés. Pour que l'effort soit pleinement ressenti comme un effort moteur, les informations neurales en partance du cerveau doivent interagir avec les signaux nerveux des contractions musculaires. Ainsi, lorsque l'on demande d'exécuter de façon volontaire une grimace, on stimule le cortex moteur et non le cortex émotionnel, zone habituelle des mimiques spontanées. Ce travail dynamique n'apporte rien en absence de récupération nerveuse. Il risque de favoriser une hypertonie du côté sain, de perturber la récupération gestuelle d'une hémiface en phase de récupération, apportant entre autres une fatigabilité supplémentaire du côté atteint. Lutter contre la pesanteur est déjà un effort intense pour les tissus atteints. La physiothérapie est-elle source de troubles ? Dans ce domaine également, des travaux nous apportent des informations constructives. Ils traitent du rôle de l'activité neuromusculaire dans le bourgeonnement axonal au niveau de la jonction neuromusculaire de muscles partiellement dénervés. Ils mettent en évidence des conditions défavorables au bourgeonnement telles que l'activité neuromusculaire excessive altère significativement les processus de pontage. De même, une stimulation insuffisante semble défavoriser la repousse. Ces constats nous incitent à ne pas rejeter l'électrothérapie si elle est pratiquée avec méthode. Aucun travail scientifique n'a pu à ce jour prouver que l'électrothérapie est source d'hypertonie. Les stimulations électrothérapiques, biofeedback ou vibrations mécaniques paraissent utiles à la prophylaxie de la fibrose, à l'entretien du schéma moteur, à une certaine lutte contre la myotrophie. Cependant, aucune analyse ambitieuse de ce rôle précis n'a été publiée. Petit D, la rééducation serait coupable de déclencher hypertonie et synesthésie. Et syncinésie, pardon. Une fois encore, les découvertes récentes nous invitent à la plus grande pudeur quant à la prescription d'exercices de contraction volontaire, voire forcée. Ainsi, une publication de 2008 nous prouve que la réinnervation se fait avec un degré d'imprécision non négligeable à reproduire le pattern original. Elle présente un risque de réinnervation multiple ne correspondant pas à la cible. Habituellement, l'axone périphérique sectionné emprunte la gaine nerveuse de l'axone atteint pour sa repousse afin de rétablir la connexion avec le muscle. Rien ne montre que la rééducation soit impliquée dans les récupérations anarchiques. Mise à jour de nos connaissances. Au-delà de la mise en cause des pratiques, les neurosciences renouvellent nos connaissances sur la neurologie faciale. Classiquement, nous différencions les paralysies faciales centrales et les paralysies faciales périphériques de façon simple. La paralysie faciale centrale est une atteinte du cortex moteur ou prémoteur, lobe frontal, après AVC. On explique ainsi qu'il reste assez de projections ipsilatérales pour ne pas avoir une atteinte de la région frontale et de l'œil, tandis que la paralysie périphérique est une lésion du nerf facial. Elle affecte tous les muscles de l'expression faciale du côté de la lésion. Les travaux récents démontrent que dans l'innervation de la partie inférieure de la face, prédominent sur le noyau du 7 des projections cortico-bulbaires du cortex moteur primaire. Les deux côtés de la partie supérieure du visage ne reçoivent pas de projection du cortex moteur primaire, mais sont innervés par les colonnes de neurones les plus dorsales du noyau du 7. Ce sont les aires primaires, motrices du gyrus cingulaire antérieur, totalement impliquées dans le processus émotionnel qui les contrôle. Ceci explique que l'on ne trouve qu'une atteinte de la partie inférieure du visage dans les AVC. Un manque de contraction volontaire des muscles de la partie inférieure d'un côté de la face, appelé paralysie faciale volontaire, indiquera le niveau provoqué par une atteinte du cortex moteur. C'est le cas où l'on peut observer des mouvements symétriques liés à l'expression d'émotions, sourire, colère, etc. Donc, en l'absence des voies issues du cortex moteur, on peut trouver des réponses motrices à des stimuli émotionnels issus du cortex antérieur. Très rarement, on rencontre des paralysies faciales de type émotionnel présentant la possibilité de contraction volontaire des muscles faciaux avec une incapacité à exprimer les émotions faciales spontanées. Par ailleurs, une équipe de l'INSERM de Toulouse vient de publier les résultats d'une recherche portant sur la perception du corps sous anesthésie régionale. 90% des patients ont eu l'illusion de sensations de gonflement, de mouvement, etc. La représentation mentale du membre endormi est très perturbée rapidement après le début de l'anesthésie. Elle peut être vite rétablie grâce à la vision de ce membre qui vient pallier les informations cognitives manquantes. Qu'en est-il au niveau de la face alors que la perception sensorielle de son propre visage n'est possible qu'à travers son image, miroir ou photographie ? Dans le cas du miroir, l'analyse ne correspond pas à une vision directe perturbée par un phénomène d'optique, l'asymétrie. D'autres travaux sur les effets du botulinum toxine A dans le traitement du langage émotionnel ont montré que l'inhibition des muscles de la face exprimant les émotions négatives ou les positives, corrugateurs ou zygomatiques, modifie la compréhension d'un texte. Il en ressort que la compréhension nécessite une stimulation mentale stimulant les zones nerveuses utilisées par l'action, la perception et l'émotion, et que l'expression faciale involontaire est indispensable dans le traitement du langage émotionnel. Les informations faciales influencent la stimulation. Les résultats confortent l'hypothèse du retour d'informations faciales dans la connaissance émotionnelle et soulèvent la question de l'impact de la paralysie faciale sur la connaissance et la réactivité émotionnelle. Les découvertes précédentes montrent combien la paralysie faciale peut influer et perturber la personnalité du patient. Elle nous incite également à chercher une dynamique rééducative en rapport avec la motricité émotionnelle plutôt que pyramidale. Conclusion. À la suite de ces informations, une question reste posée dans les chirurgies réparatrices des paralysies faciales avec la transposition du temporal, technique LABÉ. Et ses résultats très positifs. Que se passe-t-il quand un muscle manducateur devient émotionnel ? Comment expliquer qu'un muscle moteur, aussi puissant que le temporal, devienne muscle de l'expression émotionnelle capable, après rééducation appropriée, de réaliser le sourire de Duchenne ? Comment passe-t-on à la suite de la rééducation du sourire volontaire, donc pyramidal, au sourire émotionnel ? Sans doute, ces résultats montrent-ils qu'il existe une grande plasticité dans les connexions cérébrales qui sous-entendent notre représentation du corps. Notons enfin que ces informations mettent en cause le bien fondé du travail en images mentales et mémoire gestuelle dans les paralysies faciales et qu'elles nous invitent à le remplacer en utilisant le sourire émotionnel.